Dernière fois, c'est-à-dire avant les vacances, ça remonte déjà un temps, on avait commencé la question du mariage et de la sexualité, et si je ne m'abuse, on était resté sur la définition du mariage, c'est-à-dire un acte finalement profane, de deux êtres qui s'engagent pour la vie, n'est-ce pas, qui se promettent l'un à l'autre pour la vie, et qui a besoin d'une sanction sociale, qui a besoin d'être officialisée. Et finalement, la Bible ne nous donne aucune donnée précise sur la manière dont doit se faire cette officialisation. Finalement, chaque civilisation, chaque culture, chaque peuple a inventé ce modèle, ce mode d'officialisation, mais quel que soit ce mode, il faut qu'il existe. Ça, c'est la chose essentielle. Alors, il pourra aussi bien avoir tout un ensemble de rites complexes, associé d'ailleurs à une dimension religieuse, ou bien alors avoir dans certaines tribus primitives, ou même chez certaines tribus gitanes jusqu'à aujourd'hui, être réduit à sa plus simple expression, comme justement chez certaines tribus gitanes, où un beau soir, les deux fiancés disparaissent dans la nature pour 3 jours, puis reviennent au bout de 3 jours, et là, tout le monde sait qu'ils sont mariés. Il n'y a pas l'ombre d'une cérémonie, pas l'ombre d'un rite quel qu'il soit, mais pour tout le monde, ils sont mariés. Et l'union, n'est-ce pas, qui est contractée de cette manière-là, est aussi durable que celles qui sont sanctionnées par monsieur le maire ou par des cérémonies religieuses diverses. Dans certains pays, l'ecclésiastique qui opère le mariage, par exemple dans les pays anglo-saxons, fait aussi office d'état civil. C'est pareil dans les pays scandinaves, n'est-ce pas? Ceux qui, évidemment, ne veulent pas se marier religieusement ont la possibilité aussi d'un mariage civil dans les pays anglo-saxons. Mais dans les pays anglo-saxons, un mariage religieux suffit parce que, automatiquement, le mariage est enregistré à l'état civil. La France, qui vit sous le régime de la séparation de l'Église et de l'État, a un acte public qui est justement le mariage civil, le mariage devant le maire ou celui qui en tient lieu, officier d'état civil, n'est-ce pas, qui est obligatoire, et la cérémonie religieuse vient en plus, n'est-ce pas, pour ceux qui sont croyants. Bon, peu importe, finalement, tout ça, ce sont des accommodements, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait justement cette sanction de l'État, de la société, plutôt que de l'État d'ailleurs, n'est-ce pas, qui fait qu'il y a une officialisation du mariage pour qu'on sache qui est la femme de qui, et puis qui sont les enfants de qui. Et c'est pourquoi, justement, la remise en question de ce principe-là, avec le fameux Pax, n'est-ce pas, qui est un engagement qui n'en est pas un, finalement, un engagement qui peut être rompu à tout moment par défection d'un des deux partenaires, qui intéresse des gens qui peuvent éventuellement être du même sexe, voire même des gens qui sont frères et sœurs, des choses semblables, n'est-ce pas, est une véritable abomination, est une véritable destruction du mariage. Et alors, qu'on ne nous dise pas que les deux choses vont coexister l'une à côté de l'autre, parce que il est bien évident qu'à partir du moment où les gens auront appris à vivre sous le régime du Pax, eh bien, le mariage va tomber en désuétude dans l'espace de quelques années. C'est donc ici une atteinte extrêmement grave que les pouvoirs publics français sont en train de porter à l'institution du mariage. Et il faut bien reconnaître que notre pays est en pointe dans ce domaine-là, n'est-ce pas ? Si malheureusement cette abomination devait passer, alors elle risquerait effectivement d'être imitée par des pays voisins et la chose pourrait devenir normale au bout de quelques années dans la plupart des pays modernes. Et ce serait évidemment quelque chose d'extrêmement grave et une véritable catastrophe justement pour une institution qui remonte avant la chute, comme on l'a vu. Mais nous avons vu aussi que le but de Satan est de détruire cela. Et ici, on arrive au bout du processus, la boucle sera bouclée. Si le Pax passe, eh bien, automatiquement, au bout d'un temps, le mariage lui-même sera supprimé par la force des choses, n'est-ce pas ? Plus personne ne se mariera. Et alors, il faudra précisément que là, les chrétiens réinventent l'institution du mariage et puis réaffirment. Et on risque de voir se produire finalement cette situation où seuls les chrétiens se marieront et où le mariage redeviendra un acte essentiellement religieux. Ça, c'est une évolution qui est possible si les choses continuent sur la lancée. Alors maintenant, un autre problème aussi avec lequel l'Église primitive a eu à être confrontée, c'est le problème de la polygamie. Il est clair, n'est-ce pas, que quand on lit les premières pages de la Bible, l'idéal biblique est la monogamie. L'engagement créa l'homme et la femme, le premier couple était un couple monogame. Et les nombreux textes nous montrent que c'est la norme. La polygamie a été tolérée, on pourrait dire, par la Bible, dans la mesure où, au départ, la polygamie était un remède à la stérilité de la femme. Avoir des enfants était essentiel dans la société ancienne, non seulement pour que la vie puisse se poursuivre, mais aussi parce que les enfants et une nombreuse descendance représentaient une main-d'œuvre qui était indispensable. Et l'opprobre qui touchait une famille stérile était un des plus grands opprobres qu'on pouvait connaître, n'est-ce pas? Alors, quand une femme était stérile, il fallait automatiquement trouver une solution à ce problème. Alors il y avait deux manières de solutionner ce problème. Il y avait l'adoption, c'était quelque chose qui était possible dans la société ancienne, biblique, et elle était souvent pratiquée, ou alors justement la polygamie. Parfois d'ailleurs, sur l'initiative de la femme légitime elle-même, n'est-ce pas, qui prenait l'initiative de donner une autre femme à son mari, comme on voit dans l'histoire des patriarches, notamment d'Abraham, soit tout simplement le mari lui-même qui décidait de prendre une autre femme pour pouvoir avoir des enfants. Bien entendu, il y a aussi l'autre aspect qui est celui du péché qui est dans le cœur de l'homme et qui l'amène parfois justement à désirer d'autres femmes que la sienne. Et la polygamie donc devient une espèce d'adultère toléré, si j'ose dire. Nous voyons cela, n'est-ce pas, aux aurores de l'humanité également, après la chute dans la lignée de Caïn, où il nous est dit qu'un certain Lémer est le premier, n'est-ce pas, qui prend deux femmes, Ada et Tsila. Le Midrash est tout à fait intéressant sur ce sujet-là. Il nous dit, il discute les noms de ces deux femmes, Ada et Tsila, n'est-ce pas. Ada, ça veut dire vers moi, à côté de moi, n'est-ce pas, celle qui est proche de moi. Tsila, c'est l'inverse, c'est celle qui est loin de moi. Et le Midrash explique qu'à partir de l'émer et de ce premier exemple de polygamie, les hommes ont pris l'habitude de prendre deux femmes, les hommes qui de la lignée de Caïn, une qui avait pour but d'être la mère de leurs enfants, et qui donc correspondait à Tsila. Et à partir du moment où elle avait enfanté quelques enfants, bon, c'était terminé. Le mari cessait de s'intéresser à elle. Elle vivait comme une recluse, portant même dans le Midrash des vêtements de veuve, etc. Et puis Ada était une femme beaucoup plus jeune, beaucoup plus belle, qui servait au plaisir, n'est-ce pas? Et on lui faisait d'ailleurs, c'est très intéressant dans le Midrash, on lui faisait boire des potions pour l'empêcher d'avoir des enfants, pour que sa beauté ne soit pas gâtée, n'est-ce pas? Donc le péché qui est dans le cœur de l'homme. Et il est certain que si la Bible a toléré cette situation, elle a toléré le divorce, et Jésus aurait pu dire de la polygamie ce qu'il a dit du divorce, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis. C'est une permission, d'ailleurs le mot est tout à fait intéressant, c'est une tolérance, mais, dit Jésus, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et de même pour la polygamie, au commencement, il n'en était pas ainsi. Le livre du prophète Malachi exprime très clairement ce rejet de la polygamie. Et au retour de l'exil, la monogamie redevient la norme. Et il est certain qu'un certain nombre de rois ont usé et abusé de la polygamie, David lui-même d'ailleurs, n'est-ce pas? Et surtout Salomon, pour son malheur, c'est ce qui a fait son malheur selon la Bible, justement, ce qui l'a amené à dévier à la fin de sa vie, le grand nombre de femmes. David, lui aussi, a eu des problèmes nombreux dans ce domaine-là, notamment avec la fameuse Bathsheba. Bon, c'est certain que là, c'était une tolérance beaucoup plus que quelque chose que Dieu approuvait véritablement. Au retour de l'exil, donc, disons-nous, c'est terminé. Et le prophète Malachie dit, de la même manière que nous avons un seul Dieu, de la même manière, devons avoir une seule femme. Parce que l'union avec Dieu, l'alliance avec Dieu, n'est-ce pas, est l'image de l'alliance passée avec la femme. D'ailleurs, épouser une femme dans l'Ancien Testament, c'est conclure avec elle une alliance. C'est entrer dans l'alliance, brite, n'est-ce pas? L'hébreu dit littéralement couper une alliance. Pourquoi? Parce qu'on tranchait des animaux par le milieu, comme on voit dans le texte de Genèse 15. Et l'alliance conclue avec la femme de ta jeunesse, dit le livre du prophète Malachie, est une alliance qui est irrévocable, tout comme l'alliance avec Dieu est irrévocable. Il y a un parallèle qui est fait entre l'alliance entre Dieu et Israël, qui est l'alliance conclue au mont Sinaï, n'est-ce pas, qui est une alliance irrévocable, même à cause de l'infidélité d'Israël, et puis l'alliance avec la femme. D'ailleurs, déjà le prophète Ézéchiel avait pris cette image dans les fameux chapitres où Jérusalem est dépeint sous l'image d'une femme prostituée, d'une femme infidèle. Et le rituel du mariage à cette époque-là est évoqué par le prophète. Je te couvris de mon vêtement et je conclus une alliance avec toi et je déclarai que tu es à moi. Donc c'était vraisemblablement ainsi que se passaient les mariages, n'est-ce pas? Le marié mettait son vêtement sur la jeune fille, et donc une alliance était conclue au terme de laquelle elle lui appartenait pour femme, elle était sa femme. C'est une véritable, d'ailleurs, il y a une espèce de. Le mot hébreu Baal signifie aussi le maître, le seigneur, n'est-ce pas? Le mari et le seigneur de la femme. Et donc il y a ici un parallèle qui est fait entre l'alliance entre Dieu et Israël et le mariage. Parallèle qu'on retrouve chez saint Paul, bien sûr, vous le savez, dans le fameux texte de Éphésiens 6, où le mariage est comparé justement à l'amour du Seigneur, à l'alliance entre Jésus et l'Église. Et Paul dit ce mystère est grand, je dis cela par rapport au Messie et à l'Église, n'est-ce pas? Et conclusion, que chacun ait sa femme. L'exigence qui est faite pour ceux qui sont responsables dans l'Église, à partir des diacres, donc les anciens, et à plus forte raison les apôtres, prophètes, etc., c'est qu'ils soient maris d'une seule femme. Ça veut dire qu'il devait y avoir vraisemblablement des frères qui, au moment où ils s'étaient convertis, avaient plusieurs femmes, non pas parce qu'ils étaient juifs, mais justement parce qu'ils étaient païens, car chez les juifs, la polygamie avait disparu à cette époque-là, mais pas chez les païens. Et bon, ben, que faire justement? C'est un peu le problème avec lequel se trouve confronté un certain nombre de missionnaires aujourd'hui dans certains pays du tiers-monde où la polygamie était encore vécue. Il se trouve qu'il y a parfois des hommes qui se convertissent, qui ont deux, trois, quatre femmes, même encore aujourd'hui dans les pays musulmans, on est autorisé à avoir quatre femmes. Bon, ben, vous avez un musulman qui se convertit, il a quatre femmes, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, alors évidemment, la logique serait de dire, bah, tu gardes la première et puis tu te défais des autres. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir les autres? C'est ça le problème. Dans ces pays-là, une femme non mariée, c'est pratiquement la mort. Alors, bien, il a fallu parfois tolérer des situations intolérables, si j'ose dire, pendant une génération. Et certains nombre de missionnaires ont dit, bon, bah, écoutez, pour cette génération, on laisse comme ça parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais alors, pour les enfants de ces gens-là, il n'y aura plus qu'une seule femme. Vraisemblablement, le problème s'était posé dans ces termes dans l'Église primitive, et on avait dit bon, ben, ces gens-là, ben, ils ont leur femme, on peut pas renvoyer ces femmes comme ça dans la nature, mais par contre, deuxième génération, il en sera autrement, et en tout cas, ces gens-là ne peuvent pas occuper de fonctions dans l'Église, pas même celle de diacre, etc. Alors ici, polygamie donc est exclue, ça c'est un fait. Et aussi, bien sûr, l'Église primitive, quand elle a évangélisé même nos régions, s'est trouvée aussi confrontée à ce problème et tous les problèmes d'immoralité qui étaient ceux des païens. Une des grandes raisons pour lesquelles les juifs ne devaient pas avoir de relation avec les païens, vous savez, même Pierre se sent tenu par cet interdit-là quand le Seigneur lui demande d'aller dans la maison de Corneille, c'est que précisément les païens mène une vie sexuelle dissolue. Et selon le Midrash, selon le Talmud, il y a deux grands péchés qui sont typiques des péchés des païens, c'est d'ailleurs très intéressant dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Le premier, c'est l'homosexualité. L'homosexualité est la caractéristique des païens. Les païens mènent une vie dissolue en ce que, précisément, ils pratiquent cette abomination qui est une abomination des pires que l'on puisse concevoir pour un juif, n'est-ce pas, l'homosexualité. Paul reprend d'ailleurs exactement cela dans le deuxième chapitre des Romains, disant ben, le propre des païens, justement, que vous étiez, vous, auquel j'adresse cette lettre, n'est-ce pas, avant votre conversion, bien c'est que justement l'idolâtrie qui est la leur les conduit à l'homosexualité. Il y a une filiation directe dans le Midrash, n'est-ce pas, entre l'idolâtrie et l'inconduite sexuelle. C'est parce que les païens sont idolâtres qu'ils pratiquent justement toutes sortes de dérèglements, en particulier celui de l'homosexualité. Le deuxième crime qui est un petit peu moins grave aux yeux des juifs, mais qui est quand même, qui vient juste après, c'est justement les relations sexuelles incestueuses. Celles qui sont, par exemple, condamnées par le Lévitique, chapitre 26, si je ne m'abuse, et précisément avec le Pax, on voit reparaître à fond ça. C'est une épreuve, s'il en était besoin encore, que notre société retourne au paganisme. Et retourne au paganisme parce qu'elle s'est tournée aussi vers l'idolâtrie, et l'idolâtrie dans ce qu'elle a de pire, c'est-à-dire l'athéisme. L'athéisme, pour la Bible, est une forme d'idolâtrie. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et Paul aussi dit ça, la perfection de Dieu se voit à l'œil nu. Par conséquent, n'est-ce pas, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils sont allés jusqu'à donc nier ces perfections-là. Et le résultat, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour qu'ils commettent des choses abominables, homme avec homme, femme avec femme, etc. Enfin, vous connaissez le texte de Romains, chapitre 2, dans ce domaine-là. Alors, l'Église primitive s'est trouvée confrontée à ce problème. Il fallait réglementer un peu les choses et amener les gens à vivre une vie beaucoup plus conforme avec ce que l'Écriture sainte enseigne. Or, justement, ce qui est extraordinaire, c'est que dans nos pays en particulier, à partir du 2e siècle, 3e siècle, etc., quand l'Évangile est venu en Europe et qu'elle s'est trouvée confrontée, même plus tard, au 5e siècle, avec les invasions barbares, où la polygamie était alors là tout à fait de mise, là aussi, l'Église a fermé les yeux, notamment sur les fredaines dans ce domaine-là des grands. Clovis était marié avec une chrétienne, Clotilde, mais enfin, Clotilde était souvent trompée, n'est-ce pas? Bon, un roi si chrétien, n'est-ce pas, méritait bien qu'on ferme les yeux sur ces petits écarts, et l'Église catholique s'y est employée. Et alors, l'Église catholique a prôné en principe la monogamie, n'est-ce pas? Mais n'a jamais cherché à faire vraiment disparaître la polygamie. Et ça, c'est extrêmement grave. Finalement, l'Église catholique a toléré le concubinage à partir du moment où, justement, il n'était pas sanctionné par un sacrement. Et pendant tout le Moyen-Âge, les cas de concubinage étaient extrêmement nombreux. Concubinage souvent des prêtres, d'ailleurs, n'est-ce pas, et des prélats. Concubinage aussi des serfs, des petites gens, concubinage des seigneurs. Les seigneurs avaient, selon le droit du Moyen-Âge, ce qu'on appelait le droit de cuissage, qui exprime bien ce qu'il veut dire. Ça veut dire qu'ils avaient droit de disposer à leur aise de leur serve, des femmes qui étaient sous leur domination dans les domaines que l'on imagine. Et ça, l'Église catholique fermait les yeux sur ces réalités-là, n'est-ce pas? Alors, au Moyen-Âge, le concubinage était monnaie courante, et avec, en quelque sorte, non pas la bénédiction de l'Église, c'était serait beaucoup dire, mais en tout cas avec sa tolérance. Et l'on sait, n'est-ce pas, que l'immoralité de la société catholique, et notamment du clergé, a été une des raisons pour lesquelles Luther aussi a lancé le mouvement de la Réforme. Les relations extra-conjugales, donc, étaient, du moment qu'elles n'étaient pas sanctionnées par un sacrement. Ça, c'était justement ce sur quoi l'Église du Moyen-Âge était absolument intraitable. Et, par exemple, des rois qui voulaient répudier leurs femmes et en épouser des autres, donc, religieusement, parce que le mariage est devenu un sacrement dans l'Église catholique, n'est-ce pas? Alors là, l'Église catholique était absolument intraitable. Par contre, les rois, les grands, pouvaient avoir toutes les maîtresses qu'ils voulaient, du moment que ce n'était pas sanctionné par un sacrement religieux, ça allait, en quelque sorte, hein. Alors ça a contribué considérablement à la dégradation des mœurs, et les pays d'Europe qui ont été christianisés ont gardé un petit peu cette idée-là. Par exemple, c'est très fort dans les pays scandinaves qui sont des pays qui sont parmi les plus dépravés d'Europe et du monde même, on peut dire, et qui l'ont toujours été, en fin de compte, parce que justement, il y a une vieille tradition dans ce domaine-là de tolérance, de relations extra-conjugales de ce type-là. Et donc nous avons affaire ici dans le catholicisme à prôner ce que l'on pourrait appeler une monogamie relative. Alors là, il est évident que bibliquement, c'est tout à fait inacceptable, c'est des choses qui sont profondément antibibliques. Les apôtres, Paul en particulier, ont repris à fond finalement ce qu'était la morale juive, ce qu'était justement un idéal de pureté conjugale que les juifs, jusqu'à la Révolution française, ont vécu d'une certaine manière peu ou prou. Bien sûr, il y avait au milieu d'eux aussi des problèmes, comme partout, tous les juifs n'étaient pas des saints. Mais on peut dire que d'une manière générale, pendant tout le Moyen-Âge et l'époque début de l'époque moderne, la moralité des juifs était infiniment supérieure à celle des chrétiens. Et alors Paul reprend absolument cette moralité, n'est-ce pas? Toute forme de relation extra-conjugale, quelle qu'elle soit, bien sûr polygamie, concubinage, relation extra-conjugale dans le domaine de l'adultère, la prostitution, etc., sont absolument condamnées par l'Évangile et ne souffrent absolument aucun compromis. Ça, c'était la morale juive qui était issue de l'enseignement des prophètes, qui était issue de l'enseignement de la Torah, qui était en gros issue de l'enseignement du Nouveau Testament, et que Jésus et les apôtres reprennent à leur compte sans en changer absolument un seul iota. Et une des conditions que l'on met pour accepter les païens au sein de l'Église, vous savez, au moment du Concile de Jérusalem, dans Acte 15, outre qu'ils s'abstiennent des animaux étouffés, du sang, etc., qu'ils s'abstiennent de l'impudicité, de la pornéia, dit le texte grec, c'est-à-dire justement de toutes ces choses, de toute l'inconduite sexuelle, dans quelque domaine que ce soit, c'est pas qu'ils mènent une vie conjugale, normale, et de nombreuses exhortations sont données dans les épîtres à des gens qui en avaient besoin, parce que justement, eux, ils n'avaient pas été habitués à cela. Et Paul le rappelle, par exemple, aux Corinthiens, vous étiez autrefois, justement, homosexuels, pour certains d'entre vous, comme ci, comme ça, vous viviez dans toutes sortes de dérèglements, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés par le sang de Jésus et par l'Esprit de notre Dieu, et par conséquent, menez maintenant une vie sainte. Vous vous souvenez toutes les exhortations que l'apôtre Paul adresse à ces mêmes Corinthiens quant à la maîtrise de soi dans ce domaine-là. Quelques péchés, dira l'apôtre Paul, qu'un homme commette, il est hors de son corps. Mais celui qui commet la pornéia, n'est-ce pas, pêche contre son propre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Et par conséquent, si quelqu'un détruit de cette manière le temple du Saint-Esprit, eh bien Dieu le détruira, n'est-ce pas. Il n'aura pas de part, donc, au royaume de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle chacun doit posséder, justement, son propre corps dans la pureté, nous dira l'apôtre Paul. Et c'est pourquoi fuyez la pornéia, dira l'apôtre Paul. Il montre que la pornéia, c'est-à-dire justement ce qu'on traduit par l'impureté, l'impudicité sous toutes ses formes, est un des plus graves péchés justement que le chrétien puisse connaître. Or aujourd'hui, justement, dans la mesure où il y a déculpabilisation de ces choses, entre guillemets, n'est-ce pas, et où au contraire il y a une revendication, d'ailleurs c'était tout à fait typique de mai 68, et a éclaté contre une révolte, contre ce qu'ils appelaient les tabous sexuels, n'est-ce pas? Mai 68 a éclaté au moment où on a voulu interdire que les jeunes filles rejoignent les garçons dans les chambres, dans les dortoirs de garçons. À ce moment-là, il y avait des dortoirs de garçons, des cités universitaires pour les garçons et des chambres universitaires pour les filles dans des bâtiments séparés. Et la première revendication de mai 68, c'était justement que les uns et les autres aient le droit d'aller dans les chambres des autres. Donc pour la pornéia, vraiment, quoi. Et donc, faites l'amour, pas la guerre, c'était le slogan de mai 68, etc. Bon, la libération sexuelle, bien, c'était à la base de la révolution de mai 68, et maintenant, c'est un fait acquis. On en est au Pax, on en est à ces choses-là. En 30 ans, ça nous, il nous est loisible de voir la dégénérescence de la société, dégénérescence de la société par le péché dans ce qu'il a de plus abject, n'est-ce pas, et qui détruit justement l'ordre de Dieu, qui détruit maintenant jusque la famille, n'est-ce pas, et qui ramène au chaos ce qui est le but de l'ennemi, ce qui est le but de l'adversaire, de Satan, et qui en même temps produit une haine contre Dieu. C'est la raison pour laquelle on ne peut plus parler de Dieu aujourd'hui, parce que les gens sont tellement enfoncés dans le péché, n'est-ce pas, revenir de leur péché vers un Dieu saint, un Dieu juste, n'est-ce pas, c'est quelque chose qu'ils rejettent a priori. Et par exemple, je lisais un livre ces derniers temps sur les codes de la Bible, montrant un grand savant a fait une enquête là-dessus, montrant que maintenant, au point de vue statistique, on arrive à des certitudes qui frisent l'absolu sur le caractère inspiré, le caractère miraculeux de ces codes. Mais les gens n'en veulent pas. Pourquoi ils n'en veulent pas? Parce que justement, ça les amènerait à vouloir se détourner du péché, n'est-ce pas? Ils n'en veulent pas, tout simplement. Hein. Et c'est vrai dans tous les domaines, parce que justement, le péché éloigne de Dieu la société tout entière. Et la société tout entière, justement, est marquée par la pornéia aujourd'hui. Le mot pornéia a donné le mot pornographie. Pornographie est aussi une forme, justement, de cette impureté. La pornéia, c'était aussi la prostitution en grec, n'est-ce pas? La prostitution montrée. Il était évident que ces filles qui s'exhibent, et maintenant aussi des garçons, malheureusement, sont des prostituées au sens profond du terme, qui vendent leur corps pour de l'argent. Enfin, c'est exactement la définition de la pornéia, de la prostitution. Et notre société est basée maintenant aujourd'hui sur la pratique de la prostitution, dans la mesure où il n'y a plus de divertissement possible aujourd'hui sans la pornéia, et la plupart des gens n'envisagent pas de vivre autrement que cela. Bon. Alors, automatiquement, le jugement de Dieu est imminent, dit l'apôtre Paul, quand on relit ce qu'il écrit dans le deuxième chapitre des Romains. Et c'est la raison pour laquelle, justement, aujourd'hui, on veut apporter l'estocade finale en détruisant maintenant le mariage par le fameux Pax. Et ce sont justement les débauchés, homosexuels en particulier, qui poussent dans ce sens-là. Autre moyen par lequel l'adversaire détruit l'ordre de Dieu dans ce domaine, c'est le divorce. Le divorce, il est prévu, si vous voulez, dans la Torah, et minutieusement codifié dans le judaïsme d'ailleurs, j'en sais quelque chose. Quand je faisais du Talmud, il y a de cela bien longtemps, on a étudié pratiquement pendant 6 mois de l'année le Maseret Gittin, c'est-à-dire le traité sur le divorce, c'est-à-dire les 101 manières de divorcer. C'est pas bon. Autant vous dire que je me barbais consciencieusement là-dedans, parce que comme je ne croyais pas au divorce, bon, j'étais obligé d'avaler cela, c'était plutôt difficile, plutôt indigeste. Mais enfin, c'est vrai, le divorce est prévu par la Torah, et les pharisiens ne se font pas faute de le rappeler à Jésus. Et Jésus aura cette parole que vous connaissez, n'est-ce pas? Celui qui répudie sa femme, sauf pour cause de pornéia, justement le mot pornéia là est très important, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Alors ça c'est la fameuse restriction mathéenne, qu'on ne trouve d'ailleurs que chez Matthieu, d'où justement l'expression de restriction mathéenne, et qui dit, bon, ben, s'il y a eu adultère, s'il y a eu inconduite dans ce domaine-là, on a le droit de répudier sa femme et d'en épouser une autre. Mais c'est une extrapolation, Jésus ne dit absolument pas cela. Il dit que celui qui répudie sa femme l'expose à devenir adultère. Pourquoi? Parce qu'elle va être prise par un autre. Et comme celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère, eh bien ça veut dire que celui qui va épouser cette femme va commettre un adultère. Sauf si elle a déjà commis l'adultère. Si elle a déjà commis l'adultère, elle ne sera pas plus adultère en étant répudiée, en étant épousée par un autre que ce qu'elle est. Elle l'est. Mais ça ne veut pas du tout dire que celui qui a été l'époux d'une femme adultère a le droit de répudier sa femme et d'en épouser un autre. Jésus dit exactement l'inverse. Celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Et par conséquent, ici, à partir de cette seule restriction amathéenne, établir, comme on le fait aujourd'hui, le droit quasiment illimité au divorce. Au début, n'est-ce pas, il y avait dans la théologie protestante, le catholicisme était beaucoup plus ferme, et est beaucoup plus ferme jusqu'à ce jour dans ce domaine-là. N'est-ce pas, le divorce, en tout cas le remariage des divorcés, est impossible selon le droit canon catholique. Alors maintenant, évidemment, les catholiques n'ont plus d'un subterfuge dans ce domaine-là. Il y a la possibilité de casser le mariage. L'Église aurait l'autorité de casser le mariage. Et alors, il y a tout un tribunal dans chaque diocèse. Il y a des instances qui sont là, justement, pour juger de la validité ou de la non-validité d'un mariage. C'est pas, bon, c'est vrai que dans certains cas, des mariages ne sont pas valides. C'est vrai que si un mariage n'est pas consommé, c'est vrai que, bon, s'il y a eu... S'il n'y a pas eu consentement mutuel, on peut discuter. Mais le catholicisme va beaucoup plus loin que cela, n'est-ce pas? Et ces histoires d'annulation de mariage permettaient aussi à parfois un certain nombre de gens bien placés de s'arranger aussi, n'est-ce pas? Bon. Mais enfin, ça mis à part, le catholicisme, il faut lui rendre cette justice, ça a été beaucoup plus ferme que le protestantisme en ce qui concerne le divorce. Et sauf justement ces cas d'annulation de mariage, dans la théologie catholique, le mariage est indissoluble. Dans la théologie protestante, au moins à partir du siècle dernier, on a considéré que ce qu'on appelait la partie innocente avait le droit de se remarier. Qu'est-ce que ça veut dire la partie innocente? Ça veut dire justement la partie qui était restée fidèle au contrat. À partir justement de cette restriction mathéenne, en tout cas. Il faut dire que ça, c'était les églises historiques. Les églises évangéliques n'avaient pas accepté, du moins dans les premiers temps, justement, cette interprétation-là. D'ailleurs, parler de partie innocente, c'est toujours un petit peu délicat. Est-ce que les choses sont toujours blanc-noir? Parfois, ça l'est, c'est vrai. Parfois, il y a des cas extrêmes, des cas tragiques, ça faut le reconnaître, n'est-ce pas? Donalgy a traité de ce problème, disant que c'est vrai, il y a quelquefois des gens qui sont lésés et qui doivent porter toute leur vie les conséquences, justement, de problèmes par rapport auxquels ils sont complètement innocents. Mais disait Donalgy, est-ce qu'on peut faire des exceptions pour ces cas-là? Est-ce que pour le bien d'un individu, n'est-ce pas? Enfin, le bien, l'avantage d'un individu, l'intérêt terrestre d'un individu, est-ce qu'on peut mettre en péril une institution tout entière, qui est l'institution du mariage? Car si le mariage est mis en cause par l'immoralité, la porneia, comme nous disions tout à l'heure, il est mis en cause aussi par le divorce. Car finalement, le divorce revient à quoi? Eh bien, revient à un adultère légalisé. Car finalement, qu'est-ce que c'est? Au bout d'un moment où chacun répudie chacune, eh bien, c'est que, comme le dit Wilkerson, dans certaines églises américaines, on se trouve avec des 50% de la population de l'église qui est remariée, puis qui se retrouve à prendre la Sainte-Seine, telle avec la femme de son frère, l'autre avec le mari de sa sœur, etc. Celle a été ma femme il y a 10 ans, et puis maintenant elle est ta femme. Par contre, ma femme était la tienne il y a 5 ans, etc. Et puis voilà, chacun, on change de femme, comme ça, parfois à l'intérieur d'une même église. Ce qui est un comble, ce qui est absolument une abomination, bien sûr. Même dans la tradition juive, le mariage, le divorce et le remariage ne peut être que quelque chose d'exceptionnel, mais il n'y a pas d'exceptionnel. Quand on ouvre la digue, elle s'ouvre, si Jésus l'avait bien compris. C'est pourquoi Jésus, justement, dit jamais, dans aucun cas. D'ailleurs, Paul le rappelle dans la question que posent les Corinthiens, dans quelles conditions un homme peut-il répudier sa femme? C'est un des rares cas où l'apôtre Paul cite une parole de Jésus. Il est très rare que dans ses épîtres, Paul cite l'enseignement de Jésus, hein, ou même des épisodes de la vie de Jésus. Mais dans le cas justement qui nous intéresse, 1 Corinthiens 7, il cite une parole de Jésus. C'est pas, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui dit ceci. Que l'homme ne répudie pas sa femme. Et là, il n'y a pas de restriction aucune. C'est pas. Et encore une fois, la restriction mathéenne ne peut pas se comprendre comme une autorisation au remariage. Au plus, n'est-ce pas, une autorisation à la séparation. On peut aller jusque-là, c'est le maxi. D'ailleurs, Paul nous dit ça aussi. N'est-ce pas? Alors, il y a un deuxième point que Paul soulève justement dans ce chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens. C'est lorsque dans le cas d'un couple mixte, ça veut dire où l'un des membres n'est pas croyant. Alors, les catholiques, là, déraillent. Tout à l'heure, c'était les protestants qui déraillaient sur le plan, justement, à la restriction mathéenne. Maintenant, ce sont les catholiques qui déraillent sur ce qu'ils appellent le privilège paulin. D'ailleurs, le mot est particulièrement mal choisi, le privilège paulin. Ça veut dire que si quelqu'un est marié avec un non-catholique, il a le droit de répudier, de se séparer de ce non-catholique, et dans ce cas-là, il a le droit de se remarier avec un ou une catholique. C'est ce qu'on appelle le privilège paulin en droit canon catholique, n'est-ce pas ? Quand on lit le texte de Paul, on voit que c'est une interprétation totalement erronée. Qu'est-ce que dit Paul ? D'abord, il dit, si une sœur a un conjoint, un mari non-croyant, ou si l'inverse, un croyant a une femme non-croyante, qu'il ne se sépare pas. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas savoir, femme, si tu ne sauveras pas ton mari. Et toi, mari, si tu ne sauveras pas ta femme. Premier argument. Deuxième argument, parce que vos enfants sont saints. Autrement, ils ne le seraient pas. C'est assez mystérieux que ça veut dire les enfants sont saints. Ben, ça veut dire qu'ils sont, gardés, si vous voulez, aussi longtemps qu'ils sont dans leur jeune âge, incapables d'assumer leurs responsabilités d'adultes, eh bien, ils sont au bénéfice de la foi du conjoint croyant. Ça veut dire que si le Seigneur revenait à ce moment-là, il serait enlevé. C'est comme ça que je comprends ce texte, en tout cas personnellement. Tandis que s'ils sont sous la responsabilité du père non-croyant et que la femme s'est séparée, eh bien, ils sont plus, en quelque sorte, sous la protection du croyant. Bon, alors ça c'est le deuxième argument, donc ne vous séparez pas. Maintenant, il peut se faire, évidemment, que le non-croyant prenne l'initiative de la séparation. Il peut, s'il n'est pas croyant, justement. Que faire dans ce cas-là ? Eh bien, qu'on se sépare, dit Paul. On ne peut pas retenir le non-croyant de force. Ou bien, si la vie à deux est impossible, parce que le non-croyant est un bonhomme épouvantable, le croyant n'est pas tenu, n'est pas lié, dit Paul littéralement, louo, n'est-ce pas en grec, n'est pas lié dans ce cas-là. Il n'est pas tenu de vivre une vie d'enfer, c'est ça que ça veut dire. Il m'est arrivé dans mon ministère d'avoir des cas comme ça, n'est-ce pas ? D'abord, c'est très souvent, malheureusement de plus en plus souvent, que des croyants sont abandonnés par leur mari incroyant ou leur femme incroyant, incroyante, parfois même d'ailleurs incroyant qui cesse de l'être. Hein. Et bon, on connaît des cas comme ça, malheureusement. Bah, qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas attacher. On ne peut pas attacher celui qui s'en va. Hein. Alors, qu'on se sépare. Le croyant n'est pas lié. C'est-à-dire, il n'est pas tenu de continuer à habiter avec ça. Je me souviens de cas aussi, un bonhomme qui rendait la vie impossible à sa femme, qui était croyante, lui aussi en principe il l'était. Mais enfin bon, sa conduite montrait que ce n'était pas tout à fait ça. Et alors sa femme disait, moi je ne peux plus, je suis battu, les enfants sont battus, j'ai peur pour les enfants, ils vont prendre un mauvais coup, etc. Il est violent, tout comme ci, comme ça, bon, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, ben, elle dit, moi je connais la Bible, que le croyant ne se sépare pas, mais ça devient impossible. Alors bon, j'ai vu le mari, j'ai discuté plusieurs fois avec lui, il a promis tout ce qu'on a voulu, en général c'est ce qui se passe, mais bon, il n'en a absolument pas tenu compte, et cette femme est venue me dire un jour, ben, je ne peux plus, bon, ben, je lui dis, écoutez, vous n'êtes pas liés, la Bible nous dit, vous n'êtes pas liés. Et là, cette femme a pris l'initiative de la séparation, au nom de ce texte biblique, le croyant n'est pas lié. Maintenant, et c'est là que un certain nombre, justement, de gens aujourd'hui dans les milieux évangéliques vont beaucoup trop loin. Disant, il n'est pas lié, ça veut dire qu'il est délié du lien conjugal, et par conséquent, il peut contracter un nouveau lien conjugal. Et on nous dit, il peut donc se remarier. Et Paul ne dit absolument pas ça, il dit exactement le contraire. Si vous relisez exactement ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 7, n'est-ce pas ? Mais, à ce moment-là, cette femme qui s'est séparée, hein, qu'elle reste dans l'état où elle est. Ça, c'est absolument clair. Ça, on va relire le texte, si vous le voulez bien. Et voilà. Voilà. Une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais si le mari est décédé, elle est libre de se marier à qui il veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Maintenant, elle sera plus heureuse, à mon avis, si elle demeure comme elle est. Bon, ça, c'est un... Il y a un autre texte qui va dans le même sens. Non, je crois que c'est essentiellement ce texte-là. Bon, en tout cas, c'est très clair, si vous voulez, que... voilà. À ceux qui ne sont pas mariés, je donne, pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie pas sa femme. Donc, verset 11. Qu'elle demeure sans se marier. C'est très clair. Je ne vois pas pourquoi on cherche mari à 14h, midi à 14h. Et alors, on voit de plus en plus de gens qui disent « Ah, ben oui, mais ma femme, comme ça, de toute façon, on s'est marié, on ne connaissait pas le Seigneur. » Vous avez des gens, tout simplement, qui, maintenant, qui connaissent le Seigneur, se sentent « La femme ne veut pas se convertir, ah ben je te quitte, je vais avec une sœur, n'est-ce pas ? Seigneur, donne-moi une sœur. Hein, une sœur en Christ. » Alors on arrive à cette idée du mariage évangélique qui redevient un sacrement, n'est-ce pas ? Mais on n'était pas vraiment marié parce qu'on ne s'était pas marié devant le Seigneur. Ça n'a rien à voir. On a vu tout à l'heure que le mariage, ce n'est pas d'être marié devant le Seigneur ou pas devant le Seigneur. Encore une fois, les gens se marient. Ils ne sont pas mariés par Dieu. Je répète toujours ça, on se marie. Ça veut dire on s'engage l'un vis-à-vis de l'autre. Et comme le dit le prophète Malachie, le Seigneur est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas, que tu le crois ou que tu ne le crois pas. Tu t'es engagé à la gitane, n'est-ce pas ? Eh bien, tu es marié. Hein ? Il y a eu sanction sociale, tu es marié. Tu es passé devant monsieur le maire, tu es marié. Allez, si on n'est pas passé devant monsieur le maire, ben, tu n'es pas marié. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez ? C'est le concubinage. Alors là, on a le droit de se remarier ? Oui. On a le droit de se marier. Alors ça, c'est un peu, je sais, c'est un peu choquant. Hein ? Alors quelqu'un qui, par exemple... a vécu, j'ai connu un cas tragique comme ça, une femme, bon ben là ça peut se discuter, je suis d'accord, une femme qui s'était mariée, et puis le mari, le soir même, après le mariage, est parti avec une autre. Bon, là, on peut considérer que le mariage est nul, hein, ça, dans ce cas-là, parce qu'il n'y a pas eu cohabitation du tout. Mais enfin, prenons un autre cas où j'ai connu une autre femme, n'est-ce pas, qui s'est mariée, et bon, a vécu avec son mari plusieurs mois, puis tombée malade, le mari était séparé d'elle, a dû rentrer, c'était en Afrique. Et puis, quand elle est rentrée d'Afrique, le mari est rentré d'Afrique, ben, il était avec une autre, quoi. Bon, eh bien, cette femme ne s'est jamais remariée, C'est normal. Mais en même temps, on dira, mais alors quelqu'un qui a vécu avec 36 bonnes femmes pendant plusieurs années, puis qui se convertit, celui-là a le droit de se marier. Ben oui. Ben oui. On dit, mais c'est injuste. Si on ne tient pas ferme sur ce plan-là, on ouvre la porte à tout. C'est ça le problème. C'est vrai qu'à la limite, il y a des cas extrêmes, des cas d'espèce qui nous font dire, ben, pour un tel, c'est dur, c'est vrai. Et on est obligé de reconnaître qu'il y a des cas où on serait tenté de dire, ben oui, là, dans ce cas-là, mais on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'il y a la Bible. On ne peut pas parce qu'il y a la parole de Dieu. Et je crois que, malheureusement, il faut le faire avec beaucoup de compassion, d'amour vis-à-vis de ceux qui sont victimes. C'est vrai qu'il y a des parties innocentes, comme dit la théologie protestante, c'est vrai. Mais tant pis, c'est pas... qu'elle demeure sans se marier ou qu'il demeure sans se marier. Les choses sont très claires. Alors, on l'a lu tout à l'heure dans le texte biblique. Alors aujourd'hui, dans notre monde où la sexualité est tellement... est essentielle, n'est-ce pas ? Quelqu'un qui n'a pas de vie sexuelle, il ne vit pas en quelque sorte. Hein ? Bon, on a du mal à concevoir que quelqu'un puisse ne pas vivre une vie sexuelle. Mais peut-être que c'est aussi notre rôle de chrétien de montrer que... la sexualité, pour importante qu'elle soit, il n'est pas question de la minimiser, on l'a trop fait dans le passé, justement, et c'est une des raisons de l'excès dans lequel on tombe aujourd'hui, ça je l'ai dit la dernière fois, eh bien, pour importante qu'elle soit, la sexualité n'est pas le tout de la vie. Et que certains, justement, peuvent faire don au Seigneur aussi de renoncer à toute vie sexuelle pour se consacrer entièrement au Seigneur, ce que Paul nous dit d'ailleurs dans le texte des Corinthiens, chapitre 7, qu'on lisait tout à l'heure, et qui nous amène maintenant, après avoir parlé du divorce, n'est-ce pas, le divorce qui est très clair, bibliquement parlant, si la vie est impossible, eh bien, on peut se séparer. L'autorisation de se séparer est donnée, le chrétien n'est pas lié, encore une fois, mais doit rester sans se remarier. Celui qui a été victime du divorce doit rester sans se remarier. Ça, c'est l'enseignement très clair de Jésus-Christ. C'est l'enseignement très clair de l'apôtre Paul. Bon. Alors maintenant, pour ce qui est des vierges, dit l'apôtre, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme un homme que le Seigneur, dans sa miséricorde, a rendu fidèle. Voici ce que j'estime bon. À cause des calamités présentes, il est bon qu'un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas de femme. Dans le cas où tu te marierais, tu ne pécherais pas. Dans le cas où la Vierge se marierait, elle ne pécherait pas. Mais ces personnes auront des afflictions dans la chair, et moi, juge de ménagement à votre égard. Voici ce que je dis, frère. Bon, ça c'est ensuite qu'il parle. Si quelqu'un donc estime déshonorant pour sa fille vierge de dépasser l'âge nubile et qu'il doit en être ainsi, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche pas, qu'on se marie. Mais, alors là, attention, justement, regardez ici toutes les précautions oratoires que prend l'apôtre. Mais celui qui tient ferme en lui-même, première chose, sans contrainte, deuxièmement, et avec l'exercice de sa propre volonté, troisièmement, qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui donne sa fille en mariage fait bien, celui qui ne la donne pas fait mieux. Bon, ça, dit l'apôtre Paul, c'est un avis, c'est pas un ordre du Seigneur. Mais ce faisant, avec toutes les précautions qu'il prend, parce que Paul sait ce que sont les êtres humains, n'est-ce pas ? D'ailleurs, dans un autre texte, il semble aller dans un autre sens, il dit, n'est-ce pas ? Il vaut mieux se marier que de brûler, n'est-ce pas ? Bon. Et pour éviter l'inconduite, il dit « J'estime bon que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Donc ici, il est clair que le chemin normal pour l'homme et pour la femme, c'est le mariage. Je dirais pour 99,9% des hommes et des femmes, le chemin normal, c'est le mariage, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, nous rappelle le livre de la Genèse. Mais, dans certains cas, dit l'apôtre Paul, pour une consécration plus grande à l'œuvre de Dieu. Et encore une fois, sans aucune contrainte, et l'apôtre Paul insiste énormément, après mûre réflexion, après avoir vraiment réfléchi, et donc ne pas être un genou, il y a parfois des jeunes de 18 ans qui viennent me dire « Moi, j'ai envie de faire le feu de célibat, mon cher ami, dans 10 ans, on en reparlera. Hein » C'est un chemin possible. Ça ne veut pas dire que ce soit un chemin obligatoire, mais c'est un chemin possible. Et ce faisant, l'apôtre Paul réhabilite le célibat comme marque d'une très haute consécration au Seigneur. D'ailleurs, Jésus avait ouvert cette voie déjà quand il dit, n'est-ce pas, eh bien, il y a des gens qui sont devenus eunuques par la main des hommes. Il y en a eux qui se sont rendus eunuques pour le royaume de Dieu. Cela, ce n'est compréhensible qu'à ceux auxquels cela a été donné que celui qui a des oreilles pour comprendre, disait Jésus. Donc ici, il montre qu'il y a des exceptions, n'est-ce pas, où des gens peuvent, comme lui-même, Paul était dans cette situation-là, n'est-ce pas, renoncent à ce qui est légitime, d'ailleurs il le dira, n'avons-nous pas le droit, nous aussi, de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font Pierre, Céphas et les autres apôtres? Bien sûr que j'aurai le droit, mais, dit-il, je n'ai usé d'aucun de ces droits, j'ai renoncé à ces droits volontairement. Bon. C'est une voie possible. Et le catholicisme, comme souvent dans ce domaine-là, est tombé dans l'excès, imposant le célibat à tous ceux qui veulent servir le Seigneur, ce qui est anti-biblique. Et là, le protestantisme a eu raison de protester vigoureusement contre cette manière de faire qui est contraire à l'enseignement biblique, tel que nous venons de le lire, et puis d'autres où Paul dit que certains hommes enseigneront des doctrines de démons, et parmi ces doctrines de démons, prescrivant de ne pas se marier. Luther ne les avait pas loupés sur ce plan-là. On ne peut pas imposer le célibat à qui que ce soit. Ça, c'est outrepasser les droits. Et là, l'Église catholique fait une faute énorme en imposant à ses ministres le célibat. D'ailleurs, ça pose d'énormes problèmes. On a vu au Moyen-Âge les cas de concubinage, etc. Il y a toutes sortes de problèmes aussi qui sont ceux de prêtres non mariés, bien évidemment, aujourd'hui, même si ça ne va pas toujours dans ces extrémités-là, n'est-ce pas ? Mais par contre, le protestantisme est tombé dans l'autre extrême, en faisant en quelque sorte du mariage quelque chose de quasi obligatoire pour ses ministres. Et si quelqu'un n'était pas marié, n'est-ce pas, eh bien alors c'était pas normal, il fallait absolument qu'il se marie, et le célibat était totalement déconsidéré dans le protestantisme. Alors, entre ces deux excès, n'est-ce pas, il y a une voie moyenne. La voie moyenne, c'est celle de l'écriture, la voie du bon sens, la voie de l'équilibre. Si quelqu'un, ayant vraiment réfléchi, sans pression, sans contrainte de quoi que ce soit, a pris une ferme résolution dans son cœur, n'est-ce pas, de se garder vierge, eh bien, il fait bien. Il fait mieux que celui qui se marie, dit l'apôtre Paul. Parce que là, il se consacre véritablement au Seigneur. Alors ça, il faut réhabiliter le célibat consacré par rapport à cela. Autre question aujourd'hui, que faire en cas d'inconduite sexuelle ? Pour ce qui est des chrétiens, bien sûr. Je ne parle pas de ceux qui sont dans le monde, parce que s'il nous fallait, dit l'apôtre Paul, déjà de son temps, rompre avec tous les débauchés, tous les homosexuels de ce temps, dit l'apôtre Paul, vous nous ferez sortir du monde. Mais ce que je vous ai enseigné, dit l'apôtre Paul, c'est que si quelqu'un se nomme frère, et qu'il est justement non seulement quelqu'un qui se conduit mal sur le plan des mœurs, mais aussi dans d'autres domaines, sur le plan de l'argent, etc., qui commet ce qu'on appelle un péché scandaleux, et parmi les péchés scandaleux, les péchés sexuels sont en premier plan, n'est-ce pas? D'ailleurs, Paul les met en premier plan aussi dans la liste des œuvres de la chair dans l'Épître aux Galates. Eh bien, celui-là doit être sanctionné, doit être mis sous discipline. Aujourd'hui, bien entendu, dans bien des églises, on est devenu laxiste dans ce domaine-là. Et de plus en plus, notamment pour ce qui est des jeunes, les relations sexuelles prémaritales sont quasiment toléré dans beaucoup d'endroits, n'est-ce pas? Car autrement, s'il n'en était pas ainsi, les jeunes partiraient, dit-on, n'est-ce pas? Et encore dernièrement, c'était le cas d'une jeune fille qui fait des prières extraordinaires, mais enfin, qui en couche avec son fiancé, fiancé étant mis entre guillemets, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, on appelle fiancé des gens qui ne sont finalement que des concubins. Alors ensuite, on finit par se marier parce que c'est quand même le chemin normal dans les églises, mais enfin, il faut essayer avant, n'est-ce pas? C'est l'apparence de sagesse qu'ont les jeunes dans ce domaine-là. Alors il est évident que ça doit être sanctionné, il n'y a pas de problème, la Bible nous le montre, n'est-ce pas, au niveau du péché, bien entendu que ce que la Bible appelle la fornication, c'est-à-dire justement relation sexuelle de gens qui sont libres, est infiniment moins grave que l'adultère, ça veut dire relation extramaritale de gens qui sont liés et qui pêchent contre leur conjoint. C'est évident que, par exemple, un jeune célibataire, ou un moins jeune d'ailleurs, qui couche avec un autre célibataire, pêche moins gravement que quelqu'un qui couche avec une femme mariée, n'est-ce pas? Bon, alors là aussi, la sanction doit être en fonction de la gravité de la faute, n'est-ce pas? Bon, quelqu'un qui commet l'adultère pêche moins gravement que quelqu'un qui commet l'homosexualité. Bon, vous voyez, il y a toute une hiérarchie aussi dans ce domaine-là. Mais en tout cas, ce genre de péché doit être sévèrement réprimé, parce que justement, si on ouvre la porte à ces choses, eh bien, automatiquement, c'est toute la vie morale de l'Église qui s'en va, surtout dans le contexte d'aujourd'hui. Autre point, n'est-ce pas, concerne les mariages mixtes. Ce qu'on appelle les mariages mixtes, parce que vous allez me dire, un mariage est toujours mixte. Mariage mixte, ça veut dire avec des gens qui ne sont pas croyants. Alors, quand nous disons qu'ils ne sont pas croyants, nous pouvons éventuellement aussi dire d'une autre confession, par exemple la confession catholique. Avec la confession catholique, même si, par exemple, quelqu'un peut être converti véritablement dans le catholicisme, ce que nous croyons vraiment, ça pose problème. Si quelqu'un, par exemple, est réformé ou baptiste, bon, c'est pas la même chose, hein, bien sûr. Mais dans le catholicisme, ça pose un problème. D'abord, le texte biblique est clair. Paul dit ça dans la deuxième épître aux Corinthiens. Ne vous mettez pas avec des étrangers sous un même joug. Et le texte que nous avons lu dans 1 Corinthiens 7, du conjoint inconverti, nous montre tous les problèmes qui naîtront alors obligatoirement dans un mariage où l'un des conjoints est croyant et l'autre ne l'est pas. Alors, vous allez me dire, pourquoi Paul évoque-t-il cette possibilité? Bien, pour une raison très simple, c'est que il cite des cas de gens qui se sont convertis après avoir été mariés, n'est-ce pas? Ou un s'est converti et l'autre ne s'est pas converti, ce qui arrive encore assez fréquemment dans nos milieux. Et Paul dira à la fin, n'est-ce pas, si quelqu'un, une veuve, par exemple, veut se remarier, elle est libre de le faire avec qui elle veut, n'est-ce pas? Parce qu'elle n'est plus liée à son mari, elle est déliée par la mort, mais par contre, n'est-ce pas, que ce soit dans le Seigneur, ça veut dire que ce soit avec quelqu'un qui croit, avec un croyant. Alors, bon, on peut dire que si Paul dit ça pour les veuves, il le dit aussi des jeunes célibataires, des jeunes qui veulent se marier. Ça doit être évidemment dans le Seigneur. Et ça, c'est une norme qu'il nous faut aussi absolument maintenir, n'est-ce pas? Car alors, autrement, on ouvre la porte à toutes sortes de débordements. Alors, évidemment, très souvent, on nous présente des cas d'espèce où des jeunes gens et des jeunes filles incroyants se sont convertis après le mariage. Bon, ça arrive, j'en ai connu. C'est relativement rare, et c'est de plus en plus rare dans la société moderne en particulier. En général, c'est souvent le conjoint converti qui se déconvertit relativement vite au contact du conjoint inconverti. Mais les quelques exceptions dans ce domaine-là ne peuvent pas infléchir la règle. C'est qu'un mariage mixte, entre guillemets, avec des inconvertis, est toujours une catastrophe. Avec le catholicisme, ça pose d'autres problèmes. Parce que le catholicisme lui-même étant un système totalitariste qui est intolérant dans ce domaine-là, parce que pour lui, encore une fois, le mariage est un sacrement, automatiquement, là, il va y avoir tout un tiraillement qui va se faire, et automatiquement, là, il y aura à terme toute une situation extrêmement difficile à vivre, n'est-ce pas, qui naîtra. Et là, on est obligé de dire sinon au mariage avec les catholiques, bien qu'évidemment, la parole de Dieu ne prévoit pas ce cas de figure pour une bonne raison, c'est qu'à cette époque-là, catholiques, protestants, ça n'existait pas. Alors aujourd'hui, on se trouve dans une situation où on est obligé de justifier Dieu devant les hommes et non plus de justifier les hommes devant Dieu. C'est Dieu qui est en position d'accuser, c'est plus l'homme. Ça, c'est le drame justement de ce temps. Et dans toutes ces questions d'éthique sexuelle et conjugale, n'est-ce pas, nous nous trouvons en porte-à-faux terrible avec le monde. Et une des plus grandes colères que nous puissions déclencher vis-à-vis du monde, c'est lorsque nous rappelons justement ces principes de la morale, de l'éthique sexuelle et conjugale, aux yeux des hommes qui n'en veulent plus. Alors, on nous dit, mais alors, quel apport a le christianisme dans la société? Si c'est pour créer des problèmes, c'est pour créer des difficultés, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que le christianisme s'occupe des problèmes de la paix dans le monde, de la faim, de ces choses-là, et puis laisser les gens vivre comme ils veulent? Après tout, chacun est libre. Si je vais avec une autre femme, je ne fais de mal à personne. C'est pas comme si je tue, si je viole, ça, le viol, bon, d'accord. Mais enfin, si elle est consentante, n'est-ce pas, quel mal je fais? Finalement, c'est ce que dit le livre des Proverbes, la femme adultère, elle mange, elle s'essuie la bouche, elle dit quel mal ai-je fait. C'est exactement ça. Et on ne se rend pas compte, justement, qu'effectivement, on fait un tort considérable aux conjoints, aux enfants, etc. Enfin, il y a tout un... À la société en général, c'est la destruction de toutes les valeurs, n'est-ce pas? Alors ça, le monde a du mal à le comprendre. Et aujourd'hui, c'est Dieu qui est en position d'accuser, le Dieu, justement, qui exige ces choses-là, qui est en position d'accuser et qu'il faut justifier aux yeux des hommes. Et ça devient une tâche de plus en plus difficile aujourd'hui. Parmi toutes les nombreuses questions controversées, on le voit avec Jean-Paul II, qui, précisément, sur ces choses-là, est extrêmement ferme, et qui est en position d'accuser, justement, parce que il défend ces choses. Alors ça, c'est un des points cruciaux de notre combat aujourd'hui, n'est-ce pas ? Garder haut et fort justement les valeurs qui sont celles de la Bible, qui étaient celles du peuple juif à l'époque de Jésus, et dans lesquelles, en tant que chrétiens, nous, greffés sur l'olivier d'Israël, nous sommes entrés. Et nous ne pouvons pas, c'est impossible de transiger sur ces choses-là, car alors c'est la destruction de l'Église, c'est la destruction de la société ensuite, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il y a une véritable levée de bouclier contre Jean-Paul II, contre l'Église catholique, dans la mesure où elle défend ces choses-là, parce que justement l'Église catholique représente le dernier bastion. La dernière digue face au débordement de l'impureté dans laquelle les hommes de ce temps se vautrent, pire que les païens des premiers siècles, comme les hommes du temps de Noé, comme les hommes du temps de Sodome. C'est exactement le retour à cette situation-là. Et de la même manière que la timide protestation de Lot lui avait provoqué une levée de bouclier contre lui, la haine de tous les gens de Sodome, la forte protestation de Jean-Paul II et de tous ceux qui tiennent ferme sur ces choses-là, aujourd'hui se heurte à une fin de non-recevoir totale, n'est-ce pas ? Et pourtant, c'est de cette manière-là que nous pouvons glorifier Dieu. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur ce sujet.